Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 13 Dey 1399 du calendrier iranien, 2 janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran s'est préparé à faire face à tout scénario possible, a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Décès de l'ayatollah Mesbah Yazdi. Le guide suprême de la révolution islamique a présenté ses condoléances. Le général Salami a mis en garde contre toute action de provocation américaine dans le golfe Persique et manifestation en Irak pour commémorer le premier anniversaire de l'assassinat du général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique a présenté ses condoléances à l'occasion du décès de l'éminent religieux iranien, l'ayatollah Mohammad Tari Mesbah Yazdi. L'ayatollah Khamenei a déclaré que le décès de l'ayatollah Mesbah Yazdi est une perte pour les écoles religieuses et le domaine des enseignements islamiques. Le guide suprême de la révolution islamique a décrit que le défunt comme étant un penseur exceptionnel qui a enseigné à des milliers d'étudiants brillants. D'autres hauts fonctionnaires du pays, comme le président Hassan Rouhani et le président du Parlement, Mohamed Barer Ghalibaf, ont également adressé leurs condoléances pour le décès de l'ayatollah Mesbah Yazdi. L'Iran a adressé une lettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, au sujet de la production de l'uranium à 20%. Nous attendons juste l'ordre du président Rouhani pour commencer ce taux d'enrichissement, a déclaré le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi. Il a déclaré que cette décision avait été approuvée par le Parlement. Il n'a pas précisé à quel moment l'activité d'enrichissement commencerait, mais il a déclaré qu'il attendait l'ordre du président Rouhani. L'Iran a une fois de plus condamné les États-Unis pour le meurtre de son éminent général, Qassem Soleimani, jurant de poursuivre les personnes impliquées dans l'assassinat. Dans un tweet, le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé que cet acte terroriste de Washington était une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté de l'Irak. Il a déclaré que la République islamique d'Iran ne lésinera sur rien pour traduire les responsables en justice. Pendant ce temps, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a mis en garde les États-Unis contre toute action de provocation dans le golfe Persique. Le général de division Hossein Salami a souligné que l'Iran était pleinement préparé à tout scénario possible. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Les Irakiens sont descendus dans les rues de la capitale Bagdad pour marquer le premier anniversaire de l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani et du commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandes. Ils ont également scandé des slogans exigeant l'expulsion des forces américaines du pays et appelant à la vengeance pour les assassinats des hauts commandants de la lutte contre le terrorisme. Le général Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes ont été assassinés à Bagdad lors d'une frappe de drone américaine ordonnée par le président Donald Trump en janvier 2020. L'Irak a prévu d'organiser des événements tout au long de la première semaine de janvier, y compris une manifestation sur les lieux de l'attaque. Au Yémen, 5 civils ont été tués et 7 autres blessés dans une attaque d'artillerie menée par les forces de la coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite dans l'ouest du Yémen. Le bombardement visait une cérémonie de mariage dans la partie sud de la province de Hudaïda. Cet incident marque la première attaque meurtrière de la coalition contre les civils yéménites au cours de la nouvelle année. L'Arabie Saoudite mène une guerre dévastatrice contre le Yémen depuis mars 2015. Des dizaines de milliers de yéménites, pour beaucoup des civils et des enfants, ont été tués dans l'offensive saoudienne. Et enfin, sachez que le Congrès américain a infligé une humiliation inédite à Donald Trump en contournant à une très large majorité son veto à l'énorme budget de la défense. La majorité des élus républicains ont joint leur voix aux démocrates, défiant leur chef au crépuscule de son mandat pour adopter ce budget de 740 milliards de dollars. En 4 ans à la Maison-Blanche, Donald Trump a utilisé à 9 reprises son droit de veto contre des textes de loi adoptés dans les deux chambres. Jusqu'ici, le Congrès n'avait jamais réussi à atteindre la majorité des 2/3 nécessaires pour l'outrepasser. Les sénateurs, qui étaient exceptionnellement réunis en 1er janvier à l'avant-veille de la nouvelle législature, se sont prononcés par 81 voix contre 13. La majorité des 2/3 était nécessaire pour invalider le veto de Donald Trump. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a mis en garde les États-Unis contre toute action de provocation dans le golfe Persique, soulignant que la République islamique d'Iran est pleinement préparée à tout scénario possible. S'exprimant lors d'une cérémonie marquant le premier anniversaire de l'assassinat par les Américains du général Qassem Soleimani, ancien commandant de la force Quds, et de ses compagnons lors d'une frappe de drone américain près de l'aéroport de Bagdad, le général de division Hossein Salami a déclaré que la récente décision du Pentagone d'intensifier sa présence et ses activités militaires dans le golfe Persique et la mer d'Oman est due à l'erreur qu'il a commise l'année dernière. Le général Salami a noté que l'assassinat du général Soleimani, ancien commandant de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique et de son camarade irakien Abu Mahdi al-Mohandes, chef adjoint des unités de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi, a augmenté la haine parmi les musulmans du monde entier. Cette haine intense hante toujours les Américains comme un cauchemar. Ils ont pris une série d'actions pour échapper à cet horrible cauchemar. Nous nous sommes préparés à n'importe quel scénario, a-t-il souligné. Mercredi, deux bombardiers américains B-52 à capacité nucléaire ont survolé le golfe Persique après des vols sans escale vers la région depuis leur hangar basé aux États-Unis. C'était la troisième fois en 6 semaines que des bombardiers américains effectuaient des vols à longue portée au large des côtes iraniennes. Les derniers déploiements ont eu lieu après que la marine américaine a annoncé l'arrivée d'un sous-marin à propulsion nucléaire dans le golfe Persique la semaine dernière. L'USS Georgia a franchi le détroit d'Ormuz accompagné de 2 navires de guerre américains, ce qui en fait le premier sous-marin chargé de missiles du genre à pénétrer dans le golfe Persique en 8 mois. La région a connu une escalade des tensions depuis que Donald Trump a accusé l'Iran de jouer un rôle dans les attaques contre l'ambassade américaine en Irak à la fin du mois dernier, que Téhéran a qualifié d'opération sous faux drapeau. Le chef du groupe antiterroriste irakien Asaïb Ahlalhaq, dont les compagnons de combat font partie des Hashd al-Shaabi, a déclaré que Bagdad aurait dû donner une réponse appropriée aux assassinats. Le chef du groupe, Asaïb Ahlalhaq, a ensuite appelé le pouvoir judiciaire irakien à poursuivre les responsables des assassinats avant que Trump ne mette fin à son mandat le 21 janvier. Le général Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes ont été assassinés avec leurs compagnons dans une frappe de drone terroriste américain autorisée par Trump près de l'aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020. Les législateurs irakiens ont approuvé un projet de loi 2 jours plus tard exigeant l'expulsion de toutes les forces militaires étrangères dirigées par les États-Unis dans leur pays. L'assassinat américain a suscité une vague de condamnations de la part des responsables et des mouvements du monde entier et a déclenché d'énormes manifestations populaires dans toute la région. Le 8 janvier 2020, le corps des gardiens de la révolution islamique a pris pour cible la base aérienne américaine d'Ayn al-Assad dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, après avoir lancé une vague d'attaques pour riposter à l'assassinat du général Soleimani. Selon le Pentagone, plus de 100 soldats américains ont subi des traumatismes crâniens lors de la frappe de la base par les forces iraniennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique a dit cependant que Washington utilise le terme pour masquer le nombre d'Américains qui ont péri pendant les représailles iraniennes.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er janvier 2021. Trois énormes explosions ont frappé mercredi l'aéroport international d'Aden au sud du Yémen alors qu'un avion venant d'Arabie Saoudite était attendu avec à son bord les membres d'un soi-disant gouvernement soutenu par Riyad. Au moins 26 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées dans ces explosions. Évidemment, le tandem américano-israélien en a aussitôt accusé Ansarallah, qui a rapidement démenti toute implication dans cette attaque qui marque une nouvelle fois l'impossible réconciliation entre deux frères ennemis que sont Riyad et Abu Dhabi. En réaction à ces explosions meurtrières, le porte-parole de la diplomatie iranienne a averti que la poursuite de l'occupation et de l'agression contre le Yémen était le principal facteur et la principale menace contre l'intégrité territoriale de ce pays. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle évolution au Yémen, dans le sud de ce pays, et son impact sur la situation sur le terrain, en effet, mais aussi la situation humanitaire au Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Même à Aden, Riyad n'a plus aucune assise. La spectaculaire attaque contre l'aéroport du port stratégique du sud du Yémen, qui donne droit sur le détroit de Bab el-Mandeb et que contrôle militairement et sécuritairement le pontin des Émirats et chef de conseil sudiste, le dénommé Ben Brek, vient de prouver que Riyad et Abu Dhabi, MBS, MBZ, ne peuvent pas s'entendre. Sauf que l'impératif de l'axe US-Israël l'exige pour l'heure et que les deux hommes liges golfiens sont mille fois rien pour oser s'opposer au dictat de l'Empire. Au fait, l'attaque aurait visé à l'aéroport international d'Aden. Le ministre pro-Riyad, fraîchement tiré du chapeau de Ben Salman, et s'est prolongé encore le soir quand ces mêmes ministres, au nombre desquels ne figure curieusement pas le ministre de la Défense, se sont retrouvés en pleine réunion au palais présidentiel. Mis à travers eux, la cible aura été l'entité sioniste. Le mercredi 30 décembre s'est effondré à Aden l'un des piliers de l'accord dit d'Abraham que le dieu finissant Trump Pompeo tente de sauver des eaux troubles post-présidentiel US, pilier qui consiste à provoquer la scission du Yémen en deux entités nord-sud via un déplacement de la capitale Sana'a à Aden avec en perspective la transformation des ports stratégiques d'Aden, de Moucha et de Socotra en un méga complexe naval israélo-américain non loin du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden, de la mer Rouge et évidemment de l'océan Indien. Ceci étant, le coup semble avoir été fatal. Le président Pantin Hadi ayant déjà quitté Aden et ses ministres ayant promis ne plus rester que pour 4 semaines, histoire de ne pas perdre la face. Évidemment, le nerviste des Émirats Ben Brek, gouverneur d'Aden, se réjouit d'avoir à se débarrasser d'un gouvernement dont seuls 5 portefeuilles sur 24 revenaient à lui et à ses clans, n'empêche que c'est une joie bien inquiète. En juin 2020, Israël Hayom se félicitait qu'un gouvernement pro-Israël venait de voir le jour à vie clos au sud du Yémen, un gouvernement dont la tête Ben Brek n'hésiterait pas de s'inspirer de l'exemple des Sud-Soudanais d'ici quelque temps. Mais depuis 30 décembre, le pari s'avère bien hasardeux. Certains observateurs y voient une claire allusion aux surprises que cacheraient les fonds marins du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, lesquels ne permettront jamais aux USA et à Israël et à leurs acolytes de les occuper. Déjà, les eaux territoriales saoudiennes ne sont plus sûres. Celle du Yémen ne le sera pas non plus pour Tel Aviv.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris, M. Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. M. Hugon, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie. Bonjour à toute l'équipe. Bonne année également. Et bonjour à Luc Michel.
Nous aussi, nous vous souhaitons, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Presse TV français, une très bonne année, M. Hugon.
Merci à vous.
Quel premier regard, M. Hugon, portez-vous sur ces explosions, ces énormes explosions qui ont frappé mercredi l'aéroport international d'Aden? À qui profiteraient justement ces explosions?
Oh ben, alors c'est un petit peu complexe de pouvoir répondre d'une façon précise du fait que ces attentats sont extrêmement récents. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Arabie Saoudite mène une politique extrêmement dure vis-à-vis du Yémen et vis-à-vis des Yéménites. Donc il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait tôt ou tard des actions de réaction envers ces attaques que portent l'Arabie Saoudite et les Américains depuis pas mal de temps maintenant au Yémen. Donc il est clair que les raisons de tout cela, vous savez, c'est toujours la même chose, ce sont pour des raisons économiques. Hein. Vous savez que les puits de pétrole saoudiens s'assèchent tout doucement, le niveau baisse, comme on a l'habitude de le dire, et on a découvert au Yémen d'énormes réserves pétrolières et gazières dans le golfe d'Aden. Donc il est clair que si les Saoudiens provoquent d'une façon aussi permanente le Yémen, c'est simplement pour mettre la main sur des ressources naturelles très importantes. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on va assister à des attentats ou du moins à des actes de répression de la part de la résistance yéménite envers les Saoudiens. Et il faut bien savoir que les Américains, l'Arabie Saoudite et Israël marchent main dans la main dans ce dossier. Hein. Donc l'Arabie Saoudite, c'est une dynastie de gens extrêmement corrompus et qui se moquent depuis très très longtemps de la religion musulmane et de l'islam, puisqu'ils collaborent avec Israël, avec les Américains depuis très longtemps. C'est la seule façon qu'ils ont trouvé de rester en place. Hein, au niveau de leur monarchie, parce qu'ils tiennent exclusivement, parce que les Américains sont là pour les protéger. Donc il est temps que les choses changent et malheureusement ça risque de durer encore quelques années avant qu'on retrouve une situation un peu plus normale.
Merci pour ces précisions, M. Hugon. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons une très bonne année 2021.
Bonjour à vous, mes bons voeux à votre équipe et à vos téléspectateurs. Je l'ai dit, 2020 a été une année horrible pour tout le monde. Souhaitons que 2021 soit meilleur et je présente mes bons voeux à monsieur.
C'est aussi notre souhait, monsieur Michel. Monsieur Michel, concernant les explosions d'Aden, alors pour certains observateurs, il s'agirait d'un règlement de compte entre les occupants saoudiens et émiratis et leurs mercenaires. Est-ce que cela pourrait démontrer en effet cette impossible réconciliation, comme je le disais en début de cette émission, entre ses frères ennemis, à savoir Riyad et Abu Dhabi?
C'est mon opinion. On ne comprend rien si on écoute évidemment les commentaires qu'il y a eu dans Sarala, l'Iran, etc. La guerre du Yémen, c'est la seconde guerre du Proche-Orient après la Syrie, et c'est un conflit régional qui s'est internationalisé. Il y a tout d'abord les parrains de cette guerre, ce sont les Américains. Ils sont là à la recherche de zones de position de force géopolitique. Leur but, c'est lié à la volonté de contrôle des voies maritimes du golfe de Guinée, et il s'agit de contrôler à la fois le détroit d'Oman et le détroit de Bab el-Mandeb, On se rappellera que le contrôle du golfe de Guinée, il est assuré par la 5e flotte américaine de Bahreïn, et que ce qui est appliqué là-bas, il faut prendre une carte pour comprendre, c'est ce qui a été appliqué en Somalie. Les Américains n'ont pas été capables de contrôler le territoire somalien. On se souvient en 1993 de la fameuse défaite de Mogadiscio qui est célébrée par le film La chute du faucon noir. Et depuis, ils appliquent la géostratégie du chaos. C'est le même programme qui est en route, bien entendu, au Yémen. Derrière ça, il y a les appétits de deux puissances proche-orientales, des monarchies réactionnaires, c'est l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Lorsque commence la guerre du Yémen, les Émiratis sont alliés étroitement aux Saoudiens, mais alors que l'Arabie Saoudite s'enfonce dans la guerre du Yémen, qui est une guerre perdue par avance, eh bien, les Émiratis, eux, se structurent et émergent comme une grande puissance maritime et militaire. On ne comprend pas ce qu'étaient les Émiratis il y a quelques années et ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était le pays du soft power, c'était le pays de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est une grande puissance militaire. Les Émiratis, en 2020, ont monopolisé la 4e défense mondiale en matière d'armement. Il y a des flottes émiraties, c'est une puissance maritime, qui mène la guerre en Libye, au Yémen, du golfe de Sirte jusqu'au golfe d'Aden. Leur allié principal, c'est Paris. Il y a un axe maritime, Paris-Émiratis, et c'est un axe qui s'est constitué au fur et à mesure que les Français prenaient leur distance ou que les Américains prenaient leur distance avec Paris. Ils contrôlent la mer Rouge, ils ont des prétentions à contrôler le golfe Persique avec l'aide des marines allemandes notamment et italiennes. Et donc, ce qui est ressorti de tout ça, c'est une rivalité. Les Saoudiens n'admettant pas la montée en puissance comme puissance régionale des Émiratis. Et on peut résumer ça par MBS comme MBZ, c'est-à-dire Ben Salman contre Ben Zayed. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est que la stratégie employée par les deux capitales, par Riyad et par les Émiratis, elle a divergé profondément depuis 2 ans. Riyad tente, il a imposé un gouvernement fantoche, c'est-à-dire qui est le gouvernement du président Abdi, qui est un pro-saoudien. Le problème, c'est que le pays est divisé. Il y a toute une partie au sud du pays qui est aux mains des Houthis. Les Houthis, c'est le prétexte. Ce sont des populations chiites, proches et soutenues par l'Iran, et c'est le prétexte de la guerre. Mais la véritable réalité, c'est pour les Américains, les positions géopolitiques, et pour les Saoudiens, le pétrole. Et de l'autre côté, il y a aussi des positions qui sont détenues par Al-Qaïda sur la péninsule arabique, qui ont des zones autonomes un peu comme partout. Les Émiratis, par contre, ils ont une autre stratégie. Ils ont constaté la difficulté d'intervenir au sol. Ça a été la différence entre les Saoudiens et les Émiratis. Les Émiratis ont envoyé leur armée, qui est une armée puissante, notamment leur blindée. Les Saoudiens, eux, ont sacrifié en achetant des soldats soudanais pour faire la guerre à leur place. Aujourd'hui, quelle est la situation? Bien entendu, les Émiratis se sont retirés militairement. Ils favorisent dans le sud, essentiellement, à la constitution d'une armée. Et leur but, c'est de réactiver la sécession du sud Yémen. Vous savez que dans les années 60, il y avait 2 Yémen, Sud-Yémen et Nord-Yémen, qui se sont réunifiés à partir de 1990. Et aujourd'hui, les Émiratis soutiennent un mouvement sécessionniste qui arbore l'ancien drapeau du Sud-Yémen. Et les forces émiraties arborent à la fois le drapeau émirati et le drapeau sécessionniste. Les Saoudiens ne peuvent pas admettre ça parce que ça fragilise essentiellement le gouvernement Abi. Enfin, il y a un nouveau larron dans cette histoire. Vous savez que Abu Dhabi, maintenant, c'est le principal allié d'Israël. Et les Émiratis sont rentrés là-bas avec un enthousiasme qui contraste d'ailleurs avec les Saoudiens qui craignent les pieds dans cette alliance. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'acte non plus Paris-Abu Dhabi, mais Paris à Abu Dhabi, Tel Aviv, qui a des ambitions géopolitiques divergentes, évidemment, des agendas américains et saoudiens. On ne comprend pas ce qui vient de se passer si on ne comprend pas ça. Il y a probablement une guerre de basse intensité qui se déroule entre les Saoudiens et les Émiratis qui explique cette affaire, mais une fois de plus, on va faire porter le chapeau à l'Iran, évidemment. C'est ce qui se passe dès qu'une bombe explose au Proche-Orient, où on sait qu'une grande partie du terrorisme est un terrorisme qui n'est pas proche-oriental, qui est un terrorisme d'État. On voit l'Iran accusé, c'est comme autre, mais ce n'est pas la réalité.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Michel. Monsieur Hugon, Monsieur Michel a très bien expliqué, décrit en effet la situation, bien sûr en rapport avec les récentes explosions à Aden. Donc, contrairement à ce que laisse entendre, d'une part, Riyad et Abu Dhabi, d'autre part, le tandem américano-israélien, alors le principal facteur d'insécurité, d'instabilité au Yémen, ce n'est pas en effet Ansarallah, c'est plutôt les velléités bellicistes, sécessionnistes, comme disait M. Michel, et interventionnistes de ces puissances en effet rétrograde de la région, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais aussi le tandem américano-sioniste avec leurs projets, notamment dans le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge.
Oui, bien sûr, ben, il est clair que de toute façon, si les Américains sont aussi présents au Proche-Orient, il y a des raisons, ce sont des raisons économiques, des raisons la raison du pétrole, hein, et ça leur permet également de pouvoir contrôler une partie de la région par le biais du golfe d'Aden, du golfe d'Oman, enfin en plus des intérêts économiques, il y a des intérêts géostratégiques qui sont très importants pour les États-Unis, mais également pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour un grand nombre de pays. Donc c'est vrai qu'on a tout intérêt pour le moment à avoir un espèce de chaos, vous savez, c'est toujours cette vieille doctrine, hein, diviser pour régner, et aujourd'hui cette doctrine s'applique bien puisqu'on voit les conflits d'intérêts entre les Émirats arabes et l'Arabie saoudite, d'autant plus que toutes ces dynasties sont tenues à bout de bras par les États-Unis qui, par leurs forces militaires, leur garantissent de rester en place, parce que c'est un facteur extrêmement important dans la région, c'est que toutes ces dynasties tiennent que parce qu'il y a une présence militaire américaine. Si demain cette présence s'arrêtait, toutes ces monarchies seront littéralement balayées. Hein, il faut bien savoir que l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est une réunion de plusieurs familles qui détenaient la région. Et c'est la dynastie des Saouds qui a été choisie pour régner. Si demain cette présence américaine lâchait les Al-Saoud, je ne donnerais pas cher de la cohérence du pays. De toute façon, moi je pense que c'est reculer pour mieux sauter, puisqu'on arrivera tôt ou tard à une cession totale. Les États-Unis sont un pays en faillite financière, donc dans les années qui viennent, on va avoir un effondrement de la société américaine, mais également occidentale, de la société européenne, qui se porte encore plus mal économiquement parlant. Donc ils n'auront plus les moyens financiers de pouvoir intervenir comme ils le font aujourd'hui, et ça va créer d'énormes instabilités au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et on va voir une redéfinition totale de la politique dans tous ces pays-là. Je ne serais pas surpris de voir dans les 15 ans qui viennent une modification totale de la géopolitique du Proche-Orient, puisque les Américains ne seront plus là pour tenir à bout de bras toutes ces dynasties corrompues.
Merci encore, Monsieur Hugon. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, vous avez évoqué tout à l'heure cette question de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Concernant la situation au Yémen, notamment dans le sud de ce pays, quels seraient les projets du régime israélien, les projets latents et patents du régime sioniste dans cette espèce de chaos, comme disait Monsieur Hugon?
Israël vise, comme les Américains, à exacerber les choses. Plus la situation est chaotique, plus elle rapporte à eux. Mais je voudrais encore vous donner une précision. Dans ce chaos yéménite, il y a en plus une guerre idéologique. Et une guerre idéologique qui fait que cette guerre, elle va du golfe de Sirte-en-Libye jusque le golfe d'Aden. C'est-à-dire que les Émiratis, ce sont les ethnies jurés des frères musulmans, et frères musulmans qui sont soutenus par les Turcs et leurs alliés qataris. Vous vous souvenez que les Émiratis et les Saoudiens, une fois d'accord, avaient proclamé un blocus du Qatar. Al Jazeera, la chaîne qatarie, jette de l'huile sur le feu. Et les Émiratis se sont lancés dans une stratégie dangereuse qui explique d'ailleurs les incidents peut-être qui viennent d'avoir lieu en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils se sont alliés contre les frères musulmans à des milices radicales salafistes et ils se sont alliés à des éléments terroristes, donc que vous appelez vous Tafkiris, que nous appelons nous en Occident, d'un terme que vous n'avez pas djihadiste. Et donc, la guerre que mènent les Émiratis contre les frères musulmans, elle va de la Libye. C'est comme ça que les Turcs sont intervenus en Libye. Les Émiratis sont alliés à Haftar contre Tripoli. Et évidemment, ils ont déplacé leur guerre également au Yémen. Il y a donc cette grande guerre idéologique qui divise les extrémistes musulmans, c'est-à-dire que tous sont au départ des Wahhabis. Et la guerre, la rupture géopolitique entre Riyad et Abu Dhabi, elle se double d'une rupture idéologique entre les frères musulmans et les salafis. Cela complique les choses, et évidemment, le grand gagnant de tout ça, c'est Israël. Israël qui voit d'un très bon œil maintenir une guerre au Yémen, qui voit des fractions yéménites importantes se fractionner, qui voit en fait, la globalisation du Yémen. Le Yémen va à terme avec trois autres différentes. Il faut se rappeler ce qu'a été la Somalie, le laboratoire américain de la géostratégie du chaos. C'était l'État le plus puissant de la Corne de l'Afrique. C'était le maréchal Siad Barre, allié de l'Union soviétique. Qu'est-ce que c'était depuis maintenant 25 ans, la Somalie? C'est un État, un non-État. Le gouvernement siège à l'étranger, il contrôle maintenant sa capitale, et des zones entières ont fait sécession, ont formé ce qu'on appelle des États de facto, des États complets avec parlement, armée, administration, mais non reconduits en même temps. Il y a le Puntland, il y a le Somaliland, il y a le Jubaland qui a fait sécession il y a seulement deux mois, parce que c'est pas terminé. Et au milieu de tout ça, il y a la guerre pour l'acquisition des. Il y a eu une guerre entre les Saoudiens et les Émiratis et les Turcs pour l'acquisition des ports de la Somalie et de la mer Rouge qui se déroule sur le Yémen, puisque les Émiratis qui contrôlent certains ports face aux Turcs et face également donc, à l'Arabie Saoudite, qui contrôlent quasiment tous les ports du Yémen maintenant. C'est comme ça qu'ils sont devenus une grande puissance maritime. Ce qu'on appelle en géopolitique une thalassocratie. Il faut comprendre toute cette situation et voir que le chaos profite évidemment aux puissances étrangères qui agissent là-bas, au détriment de tous les peuples qui sont là-bas. Une dernière chose, si vous citiez un acteur, c'est que c'est ce qui va apparaître en 2021, c'est que les Russes sont maintenant arrivés dans la Russie, qu'ils ont signé des accords malgré le changement de régime à Kherson. Ils ont un des liens avec les généraux soudanais qui sont opposés aux civils pro-américains. Il va donc avoir une base militaire et navale russe au Soudan. Il va avoir une seconde base navale et militaire russe en Érythrée, qui est le plan B de la Russie au cas où le Soudan se révèle la mafia. Ça va changer la donne complètement.
Merci,
parce
monsieur
que les Russes vont appuyer dans la côte de l'Afrique la révolution géopolitique de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de Djibouti face à toutes ces puissances extérieures qui ont cru qu'elles pouvaient coloniser la mer.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Philippe Hugon, journaliste depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus, consacrée largement aujourd'hui à l'actualité iranienne. Le président iranien Hassan Rouhani a souligné que le président américain Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo sont considérés comme les deux complices, les premiers responsables de l'assassinat du général martyr Soleimani. Le martyr Soleimani est un héros national. Il est un honneur pour la nation iranienne, les nations de la région et toutes les nations musulmanes, a-t-il souligné. Hassan Rouhani a souligné que le général Soleimani fut assassiné par un acte terroriste et brutal perpétré par des responsables des États-Unis, surtout par le président et le secrétaire d'État américain, qui sont tous les deux responsables de ce crime. La nation iranienne ne les abandonnera pas et c'est le droit légitime de notre peuple de se venger du sang du général Soleimani, a-t-il souligné. Certains pensent que le martyr de Soleimani est un homme courageux sans pareil. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement son courage qui le distingue des autres. Il faut considérer aussi sa sagesse, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. La vengeance attend les criminels qui étaient derrière l'assassinat du général Soleimani. Trump n'est pas à l'abri, a souligné le chef du pouvoir judiciaire iranien Ebrahim Raisi. Trump est le criminel numéro un dans l'affaire de l'assassinat du martyr de Soleimani. Lui-même a avoué ce crime devant tout le peuble du monde et il finira par être puni pour cet acte criminel, a insisté le chef du pouvoir judiciaire iranien Ebrahim Raisi, qualifiant le très haut général Soleimani de symbole de la lutte contre le terrorisme et de figure de la sécurité pour la région. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a souligné l'acte d'accusation pour punir les auteurs de cet assassinat en martyr ne se limite pas à un procès suivi par la famille du martyr ou la nation iranienne. Il s'agit d'un acte d'accusation déposé au nom de l'Oumma islamique et populations libres du monde contre le terrorisme d'État américain, a-t-il souligné. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'assassinat en janvier du lieutenant général Qassem Soleimani, commandant de haut rang antiterroriste, lors d'une frappe terroriste de drone en Irak, affirmant que les États-Unis avaient commis une grave erreur, en faisant un geste aussi lâche. En assassinant lâchement le général Soleimani, les États-Unis ont commis une grave erreur, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur sa page Twitter officielle. Il a ajouté que la résolution du Parlement irakien appelant le gouvernement à mettre fin au déploiement de toutes les troupes militaires étrangères sur le sol de ce pays arabe est le début de la fin de la présence maligne de US dans notre région. Notre région a suffisamment souffert des interventions du régime hors la loi des États-Unis, indique le ministère iranien des Affaires étrangères dans son communiqué. Le général Soleimani, le commandant de la force Quds du corps de gardiens de la révolution islamique et de son camarade de combat Abu Mahdi al-Muhandes, le chef adjoint des unités de mobilisation populaire d'Hashd al-Shaabi, ont été assassinés avec leurs compagnons dans une frappe terroriste américaine qui avait été menée sur ordre direct du président américain Donald Trump près de l'aéroport international de Bagdad le 3 janvier de 2020. Les législateurs irakiens ont approuvé un projet de loi 2 jours plus tard exigeant le retrait du pays de toutes les forces étrangères dirigées par les États-Unis. Les deux commandantes sont admirées par les nations musulmanes pour avoir éliminé le groupe terroriste de Daesh parrainé par les États-Unis dans la région, en particulier en Irak et en Syrie. L'assassinat américain a suscité une vague de condamnations de la part des responsables et des mouvements du monde entier. Jugeant une vengeance sévère, le corps des gardiens de la révolution islamique a pris le 8 janvier 2020 pour cible la base américaine d'Ain al-Assad en Irak dans la province d'Al-Anbar. L'ambassade d'Iran en France a appelé la communauté internationale et les institutions internationales à démasquer le visage violent et extrémiste du gouvernement américain en abandonnant le double standard. L'ambassade d'Iran en France a publié jeudi une déclaration à l'occasion de l'anniversaire du martyr du général du corps d'armée de Qassem Soleimani a annoncé l'assassinat de ce haut responsable iranien lors d'une visite officielle alors qu'il était porteur d'un message politique pour la paix est un exemple clair de terrorisme d'État qui, en plus de violer de tous les principes humain connu et les normes internationales, a poursuivi le sinistre objectif de créer une crise et la tension. Rappelant les funérailles glorieuses et uniques du lieutenant général Soleimani, l'ambassade d'Iran en France a déclaré « Ces funérailles ont été un chapitre d'or de gratitude et d'appréciation du peuple iranien et d'autres nations de la région pour ce pacifiste sans prétention et véritable et aujourd'hui plus que jamais les services et les sacrifices qu'il a consentis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sont évidents pour le monde entier. La déclaration a conclu « On attend de la communauté internationale et des institutions internationales compétentes qu'elles démasquent le visage violent et extrémiste du gouvernement américain en toute transparence et en écartant les deux poids de deux mesures et condamne l'acte terroriste des cibles de ce régime et tiennent responsables ceux qui en sont criminellement responsables. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a écarté l'éventualité d'une agression israélienne contre la région. Lorsque vous entendez le vacarme médiatique israélien, sachez qu'il n'y aura pas d'action effective, a affirmé Seyed Hassan Nasrallah lors d'une interview de 4 heures accordée à la chaîne libanaise d'Al-Mayadin, et de révéler le nombre de missiles de précision de la résistance a doublé de ce qu'on peut posséder depuis un an. Il a également écarté le scénario catastrophe selon lequel le président américain Donald Trump, un fou furieux, puisse lancer une offensive contre la région au dernier jour de son mandat, soulignant néanmoins que l'axe de la résistance devrait par contre rester prudent tout au long de ces deux semaines. S'agissant de l'assassinat du chef de la force Al-Quds du corps de gardien de la révolution islamique en Iran, le général Mahdi Rassem Soleimani et du numéro 2 de Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Mohandes, Sayyid Hassan Nasrallah a affirmé que les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite sont des complices de ce crime. Le numéro 1 du Hezbollah libanais a également accusé l'Arabie Saoudite d'avoir incité à son assassinat depuis le début de la guerre saoudienne contre le Yémen. Il a, dans ce contexte, révélé avoir reçu des informations et appris que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, MBS, avait proposé cette question lors de sa première visite aux États-Unis après l'élection de Trump, et ce dernier a approuvé l'attribution de cette opération à Israël. Interrogé sur le soutien à la résistance palestinienne, Sayyid Hassan Nasrallah a dévoilé que c'est Soleimani qui est derrière l'acheminement des missiles anti-chars Cornet à la bande de Gaza. Et d'ajouter, le président syrien Bachar al-Assad avait accepté de faire parvenir les Cornet et qu'il avait acheté des Russes au Hamas et au djihad islamique dans la bande de Gaza. Et puis, concernant les accords de normalisation entre Israël et certains pays arabes, le numéro 1 du Hezbollah a affirmé qu'il n'a pas été surpris. Ces régimes entretenaient depuis longtemps des liens secrets avec Israël. Mais ce qui diffère aujourd'hui, c'est que les masques sont tombés, a-t-il conclu. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.